TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur, parce qu'on va parler de la mort. Alors, la mort, vous savez qu'on pourrait presque dire que la seule personne qui meurt, c'est l'homme. Les anges, qui sont immortels ou pas, c'est des marloquettes. Il y en a qui disent, il y en a certains, oui, certains non. Certains qui vivent qu'un jour. Mais en tous les cas, ils n'ont pas le sentiment de la mort. Les animaux, non plus. Les animaux meurent. Des fois, ils pressentent à part leur mort juste avant de mourir, mais c'est un adieu qu'ils nous font. Ils n'ont pas la notion de la peur de la mort, en tous les cas. D'où vient la peur de la mort? Pourquoi les gens diraient, bah voilà, je vis ce que je dois vivre, très bien. Vous savez que le Bereshit dit le Gaon de Vilna, c'est la création du temps. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun a un temps qui lui est octroyé, pas plus, pas moins. Un papillon doit vivre 24 heures, certains anges vivent 24 heures, les éléphants qui vivent 100 ans, il y a des hommes qui vivent 20 ans, il y en a qui vivent 40 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Chacun a ce qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs ils ont découvert ce que dit la Torah, comme d'habitude la science le découvre 3000 ans plus tard, ils ont découvert qu'il y a à la naissance ce qu'on appelle une horloge biologique. Ça veut dire que la personne naît avec un temps qui est déjà prédéterminé, qui va lui donner un temps de vie. Tout est déjà codifié à la naissance, quel temps tu as de vivre. Non, c'est pas du tout comme on croit. C'est-à-dire que l'homme, il se croit éternel, il se voit comme ayant le droit de vivre éternellement et qu'il est agressé par des forces extérieures qui seraient l'érosion du temps, de la maladie, des éléments, du froid, du chaud, du stress de la vie qui diminue et qui abîme de l'extérieur son existence, sa vie, jusqu'à l'éteindre, jusqu'à la mort. Mais c'est pas du tout ça le chat. La vie est un flambeau qui nous est donné avec son potentiel énergétique qui va sa croissance, après à la jeunesse, il va flamboyer, après il va encore flamboyer, il va être un peu brillant, et après, jusqu'à la fin, et à un moment donné, il n'y a plus, et ça meurt. On a le temps qu'on a, c'est tout. Bon alors, si c'est comme ça, tout le monde devrait être content. On a le temps qu'on a, vis ton temps. Pourquoi tu t'échappes hors de ton temps pour avoir peur de plus avoir ton temps? C'est bizarre. Les animaux, ils vivent leur vie. Qu'on soit s'engraisser des questions métaphysiques, pourquoi la mort, pourquoi pas la mort? C'est qu'en réalité, le secret de cette chose-là, c'est que notre tort a une origine qui est plus vraie que la vérité d'aujourd'hui. Qu'est quoi? Qu'en réalité, l'homme a été créé à l'origine de l'origine, quand Dieu a créé Adam et Chava. Il les a créés pour être immortels. Il n'était pas prévu qu'on meure. La mort a été un accident, à cause de la faute. Donc en réalité, l'homme, en essence de l'essence, hein, je parle, une essence qu'on a du mal à entrevoir nous-mêmes, puisque c'est une essence humaine qui a été complètement abolie normalement par la faute, au point où Adam et Chava, avant la faute, pouvaient se promener nus. Il n'y avait pas de boucha, puisqu'ils étaient parfaits, il n'y avait pas besoin de se cacher. Tout leur corps était métaphysique, tout leur corps était sacré. Il n'y a pas de différence entre le corps d'en bas et le corps d'en haut. De la même façon que le visage est présentable, et bien tout le corps, dans les parties les plus intimes, était présentable, parce qu'il n'y avait rien de souillé, tout était pur, tout était transparent. Bon, c'est une humanité qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais il reste quand même des traces de cette humanité-là. Dans l'essence de l'essence, nous avons été créés pour être immortels. Et donc, l'homme ressent la mort comme un scandale. L'homme ressent la mort comme un scandale parce que la mort ne devrait pas avoir lieu puisque, il faut bien comprendre profondément, c'est que la richesse intérieure de l'homme, son inépuisable faculté de vivre, cette infinie puissance existentielle qu'il habite, qui fait que jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans, il est toujours capable d'apprendre, de s'émerveiller, de communiquer, de s'étonner, d'être avec l'autre, de vivre. Et un homme vivant, si c'est pas un dépressif, c'est pas quelqu'un qui est malade, un homme vivant, il aime vivre, il veut vivre, et il ne veut pas mourir. Il veut vivre éternellement. Pourquoi? Parce que cette éternité de la vie répond à l'essence de son être qui a une potentielle éternelle de jouissance existentielle. Et donc l'homme ne veut pas mourir. C'est scandaleux la mort. Comment? Et c'est vrai que c'est scandaleux la mort. Vous voyez quelqu'un magnifique, unique. Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Quand cette personne s'en va, c'est un scandale métaphysique. On pourrait presque dire, arrêtons tout. Arrêtons tout. Sans Rouven, sans Shimon, sans Léa, sans Sarah, le monde ne veut plus rien dire. Le monde ne veut plus rien dire parce que c'était une figure unique de l'humanité qui portait à elle seule l'humanité entière, le sens de l'humanité entière. C'est pour ça que quand un tzaddik meurt, c'est en même temps extraordinaire parce qu'on sait qu'il va au Lamaba, il a l'éternité, mais en même temps pour nous c'est un déchirement parce que c'est une partie. Quand l'autre meurt, nous mourons avec lui, nos proches qui meurent. Eh bien, nous mourrons aussi. Nous mourrons aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y avait un grand rabbi qui, avant sa mort, marchait dans sa chambre. Je ne sais plus quel rabbi c'était. Il marchait dans sa chambre, comme ça. Il tournait autour de son lit. Les talmidim qui étaient derrière la porte écoutaient en disant « Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait ?» Et on entendait répéter « Il l'a pourtant bien fait. Il l'a pourtant bien fait. Il l'a pourtant bien fait. » Il répétait ça pendant des je ne sais pas combien de temps, mais plein de fois, suffisamment pour que les talmidim soient touchés, demandent ce qui se passe. Et un des élèves a demandé au rabbi, de quoi tu parles? Et il lui a dit, je pensais à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est parti dans l'Olam Haba, il est parti dans la mort sans aucune crainte. Moi aussi, je veux arriver à cette non-crainte absolue. Alors comment on fait? Comment on fait dans l'acceptation de n'être plus, en tous les cas, dans une figure de ce que l'on est aujourd'hui? On ne sera plus. Même le Gaon de Vilna, avant de mourir, il prenait ses tzitzit. Il prenait ses tzitzit comme ça, et il pleurait. Et il disait dans ce monde-ci, il savait très bien, le Gaon de Vilna, qu'il avait un Olam Haba fabuleux, qu'il avait l'éternité devant lui après la mort. Et donc il disait dans ce monde-ci, je peux pour quelques kopecks, un peu d'argent, m'acheter des tzitzit comme ça, magnifique. Je peux faire des mitzvot. Au monde futur, je peux plus faire des mitzvot. C'est fini. Je suis que le résultat de ma vie. Et il pleurait. Comme quoi, même au niveau du Gaon de Vilna, il y a une perte dans la mort. Une perte de cette possibilité de servir Dieu en toute liberté. De cette possibilité de changer sa nature, de changer son être à chaque instant, d'avoir la liberté de se redéfinir à chaque instant. Alors qu'après la mort, c'est fini. C'est une photo figée. On est ce qu'on est éternellement. Et on devra. Et nos lacunes sont des lacunes infernales, éternelles. Et notre beauté spirituelle est une splendeur fabuleuse. Mais on ne peut plus changer. Ça y est, on est ce qu'on est. Le jugement dernier, comme disent les Goïms, en tous les cas, le din que l'homme subit après la mort, ce n'est qu'une une recapitalisation de toute son existence. Ce qui s'étale dans le temps, ce qui nous paraît comme ça, 90 ans, 100 ans, long, et ben tout ça, ça dure. Quand on le voit après la mort, c'est un paysage d'une seconde. On le voit, on attrape l'existence entière en une seconde, parce que notre existence a créé un tableau, a créé une figure de nous-mêmes. Avec comme un tableau, il y a du noir, du bleu, du vert, il y a de la lumière, il y a de l'ombre, il y a de la joie et de la tristesse. Un grand tableau à 1000 visages. Et ben la vie d'un homme qui se déploie dans le temps. Par sa liberté de faire le bien et le mal, de trahir Dieu ou d'être Eved Hashem, ça fait une figure. Quelque chose au-delà du temps, un instantané qui résume toute l'existence. Et ça sera l'habitacle dans lequel l'homme va vivre éternellement. C'est ça l'Olam Haba. Olamo, c'est-à-dire son monde. C'est pas un lieu avec des papillons et des cigognes, et pas du tout. C'est comment toi t'as vécu, et ben ta vie. C'est l'habitacle ou de lumière, si tu as fait des mitzvot, et tu es la Torah, éternelle dans laquelle tu vas habiter, ou d'extraordinaires ténèbres. Comment allez-nous? Si tu as tout le temps trahi, si tu as tout le temps fait du mal aux autres, si tu as tout le temps été radin, si tu n'as jamais aidé, si tu as toujours été que pour toi, c'est le néant. C'est l'habitacle du néant, c'est le Géhinnom, c'est l'enfer. C'est l'image du feu. Le feu brûle ce qui est. Le feu du Géhinnom, c'est pas le feu, il n'y a pas de feu là-haut. C'est le feu brûle ce qui est. Et ben, le néant de tes avérotes brûle, tu n'es plus. Et le manque à être, c'est la plus grande douleur. Alors que la joie d'être, c'est le plus grand bonheur. Et l'être et le non-être après la mort, c'est pas comme ici, on peut vivre un non-être qui appartient de l'être, de l'être qui est du non-être. Ici, c'est mélangé. J'ai envie de dire de la shonara. J'ai envie de parler. La parole, c'est la vie. de dire que j'arrête de faire du Lashon Hara, c'est mortuaire. C'est quelque chose de morbide, ça m'empêche de vivre. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire ce que je pense. Pas méchamment, j'ai envie de dire que celui-là, c'est un idiot. Non, surtout pas. Alors tu fais ça, tu perds ton rabat, tais-toi. Alors c'est une mort, mais c'est une mort qui est une vie. Et d'un autre côté, quelqu'un qui fait la Dolce Vita, Saint-Tropez, qui croit avec son cigare au bord de la piscine, en train de faire des bêtises, il croit qu'il a, ah voilà, je vis magnifiquement bien. Mais en réalité, c'est un pauvre type, c'est un raté. Il est en train de donner un non-sens. Il détruit sa vie pour des cacahuètes. Ici, l'être et le non-être, ils peuvent avoir des visages opposés. Oh là, maman, c'est pas comme ça. Tu n'as que l'être réel et les ténèbres réelles. Et c'est ton habitacle, la vie. C'est pour ça que ça fait peur avant de mourir. C'est pour ça que même le Gaon de Vilna ne veut pas mourir. Mais alors comment on fait? Alors il y a plusieurs. On va essayer d'en donner cinq. Cinq éléments qui permettent de surmonter un petit peu la question de la mort. Le premier, c'est qu'il existe ce qu'on appelle dans la Torah le Et. Et qui est la racine de Atid. C'est l'instant d'éternité. C'est que la possibilité, dans un instant, de résumer la totalité du sens de ton existence. C'est très rare. C'est très rare. Et surtout, ça se décline. Il y a des moments dans la vie, quand on marie ses enfants, quand on fait une immense mitzvah, qu'on s'est surpassé et qu'on est content, qu'on a sauvé la vie de quelqu'un, quand on a enseigné quelqu'un et qu'il est devenu un Tamid Raham, quand tes enfants deviennent eux-mêmes des Tamid Raham, quand toi-même, tu étudies tellement que tu arrives à une compréhension totale de ce que toi, tu peux comprendre d'une sugya. Là, tu arrives à un moment donné où toute ton existence, tous les éléments de ton existence disparates se résument, se subsument, s'unissent, se concentrent dans un instant qui a une totalité tellement forte qu'il est au-delà du temps. C'est ce que j'appelle les instants d'éternité. Un instant qui n'est pas à la traîne du passé, qui n'est pas conditionné par le passé, qui n'est pas dans la frustration d'un futur, mais qui est véritablement dans la possibilité de vivre. C'est la vie. Ça y est, à cet instant, c'est la vie. Et cette vie-là, elle n'a pas besoin ni du passé, ni du futur. Elle est dans la pure présence de mon âme, dans cette palpitation de mon âme, dans la totalité de mon existence. J'ai convoqué, j'ai réussi à mobiliser, j'ai réussi à réquisitionner toutes les forces de mon être pour à un moment donné être dans une compréhension totale de ma vie, dans une relation à la vérité, à Dieu, qui n'est plus dépendant rien d'autre que ma vérité métaphysique d'être un homme face à Dieu. Magnifique, c'est l'instant, on va l'appeler l'instant totalisant. C'est l'instant qui totalise dans un instant, toutes les dimensions de ton existence. Celui qui vit cet instant. Alors, le grand sadique le vit, peut le vivre plusieurs fois d'ailleurs. Et quand il a vécu ça, il a tout vécu, il n'a plus peur de la mort. Il a vécu la totalité de la vie. Mais on peut le vivre aussi en variation, dans le rapport à prendre le temps de reconnaître son fils comme son fils. Prendre le temps de vivre avec nos êtres proches, avec la Gemara qu'on étudie, avec les mitzvot qu'on fait. Prendre le temps de les traduire comme des moments qui concentrent le sens même de mon existence. Et à un certain niveau, le grand sadique, chaque instant devient un temps totalisant. Et donc il a une vie d'une intensité magnifique. Il vit. Et comme il vit, la mort ne le pénètre pas. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la notion de l'autre. Né mortel, on dit, la Gemara elle dit que Jacob n'est pas mort. La Gemara dit, ah, pourtant Jacob est mort. Jacob est mort, il a été empaillé. Enfin, il a été mis en momie. Il a été, oui, mort. Non, on dit, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que comme Israël n'est pas mort, lui n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, machloket, dit le Maral de Prat, les machloket, les bonnes machloket dans la Gemara, les machloket du sens, la guerre métaphysique du sens. Le Maral de Prat, il interprète machloket, mechalek mavet. Il coupe la mort. Il déchire la mort. Pourquoi? Parce que la machloket, ça doit être concerné par l'idée, mais pas que ma propre idée, l'idée de l'autre. La confrontation de mon être avec l'autre et de l'autre, mon intelligence avec l'intelligence de l'autre, le fait que ma destinée intellectuelle, ma destinée spirituelle ne se résume pas qu'à moi, mais qu'elle est liée à Am Israël, à l'autre, au sens universel. à la vérité, à la Torah, me rend éternel. Parce que le point névralgique, le point de pesanteur de mon existence, c'est plus mon ego, c'est plus moi. C'est Am Israël, c'est la Torah, c'est la vérité, c'est l'autre. C'est passer sa vie dans les mains de l'autre, quelque part. C'est d'être défini par une définition qui excède mon ego et de se considérer comme un membre du corps glorieux d'Israël, comme une lettre du corps glorieux du texte de la Torah, comme un souffle du souffle infini de la parole de Dieu qui m'a créé. Quand je me définis à partir de ces sphères qui excèdent mon ego, je n'ai plus peur de la mort. La troisième notion qui n'est pas moins importante, c'est la notion de transmission, les enfants. On dit que celui qui n'a pas d'enfant est un homme mort. Celui qui a des enfants est immortel. Pourquoi ? Parce que c'est passer l'amour de la vie, passer l'amour de la Torah, passer l'amour de Dieu, passer l'amour te définit. Or, si tu passes en héritage, la façon dont tu aimes, c'est ta vie. Si tu passes cette façon d'aimer à ta progéniture, à tes enfants, et ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut être des amis, tu passes à quelqu'un d'autre ta façon d'aimer, et ben tu deviens immortel à travers eux. C'est plus facile la troisième façon. C'est la deuxième façon d'être défini par l'absolu, c'est très dur. Alors que de considérer sa progéniture, ses enfants, mais pas juste comme parce que eux, leur corps qui vient aussi de mon corps continue sans moi, j'existe. Non, ça aussi, mais ça c'est la pérennité de l'espèce. C'est la reproduction de l'espèce animale, on ne parle pas de ça. On parle d'une identité spirituelle qui t'est propre, qui se définit essentiellement dans la façon dont tu es capable d'aimer. Cette façon dont tu es capable d'aimer, transmets-la aux générations futures qui vont eux-mêmes la transmettre aux générations futures. C'est le patrimoine thoraïque qui passe depuis Moïse jusqu'au Mashiach. Donc tu es là, tu es toujours là, tu seras toujours là. Il y a une quatrième dimension qui est peut-être plus dure, c'est vivre jusqu'à dans la mort. Ça veut dire d'être capable de produire une Torah, ça c'est que pour les gens qui étudient la Torah à très haut niveau, enfin en tout cas un niveau suffisant pour arriver à ça, c'est de produire un sens, de produire une œuvre thoraïque, de produire une Torah qui elle-même est toi, mais qui est toi dans le sens divin, c'est-à-dire toi qui excède ton toi, mais qui est toi, et qui va palpiter dans les esprits d'Israël éternellement. Celui qui est capable de créer de la Torah est un être heureux. Mais quand il a la Torah, c'est la vraie Torah, ça veut dire la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, il y a le Naasé Venishma. Naasé, c'est devant la verticalité infinie de Dieu. On comprend rien. Donc Naasé, on fait, parce que Dieu est infini, plus grand, mon intelligence est plus grande que la sienne. C'est ça la différence entre l'hérétique et le tzaddik. L'hérétique, il veut toujours passer sous le filtre de sa connaissance, la Torah. Donc il comprend rien. Naasé Venishma, ça veut dire... La Torah, de toute façon, est tellement infinie que je comprends rien. Donc, j'accepte tout. Naasé. C'est une intelligence des anges, dit Dagmar. C'est de comprendre que l'intelligence divine est infiniment supérieure à ma propre intelligence. Donc, j'accepte cette intelligence. Et en l'acceptant, il se passe le miracle du nishma. Le nishma, ça veut dire que je peux reformuler cette parole infinie de Dieu à partir de ma propre identité, de ma propre subjectivité, de ma propre singularité. C'est le miracle de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que celui qui dit que dans le Naasé, c'est-à-dire qu'il est fasciné par la grandeur de Dieu, il ne peut que contempler la Torah, mais il ne peut pas la formuler avec ses mots à lui. C'est déjà pas mal, c'est bien, hein. Mais il n'est jamais arrivé à produire une Torah. Celui qui est que dans le Nishma, c'est une catastrophe, c'est celui qui ne s'écoute que lui-même, qui est capable de produire des idées, mais qui ne sont que de lui-même, et il n'écoute rien de Dieu, il est nul. Celui qui fait Naasé mais Nishma, il est capable de se mesurer à la verticalité de la vérité. Naasé, c'est tellement grand qu'il n'y a pas d'objet de choisir. Ça. C'est la vérité elle-même, je l'accepte. Mais à partir de elle, je reformule un nishma, une parole singulière, une parole qui m'est propre, qui est le reflet de cette naasé, de cette verticalité. C'est-à-dire que cette verticalité, au lieu de m'anéantir, elle me permet d'apparaître au monde, de produire une vérité avec mes propres paroles, ma propre chair, mais qui ne résume pas, qui ne réduit pas cette verticalité, cette vérité absolue à des petites conceptions personnelles, Dieu préserve, mais dont la personnalité intime de moi n'est que l'écho de l'infini. À ce moment-là, je produis la Torah. C'est ça le chidouche, la singularité chidouchnik de chacun. Là, t'es éternel, puisque tu es devenu Torah. Ta parole est une parole de Torah, ton esprit. Et là, il va encore, quand on lit les livres du Gaon de Vilna, de Rabbi Nachman de Breslav, du Maharal de Prague, ces livres-là nous font palpiter, ils nous font vivre, ils agissent sur nous, ils agissent sur des millions de juifs. Ce sont des êtres vivants. Leur pensée est vivante et ils sont vivants. Et la ultime dépassement de la question de la mort, c'est la relation à Dieu. C'est à un moment donné, tu dis « en ol milvado ». À un moment, tu dis « mourir, vivre », tout ça n'est pas grande importance. Pourquoi ? Parce qu'il y a « en ol milvado ». Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est que le souci de Dieu, pas mon souci à moi. C'est ça qu'essayait le Rabbi dit. Moshe Rabbeinu est arrivé à un tel niveau de désengagement, à un tel niveau de désintéressement, au sens étymologique français du terme, pour ceux qui connaissent le latin. Ça veut dire « s'arracher inter-s », sortir de l'être, sortir du « s ». Il n'est plus une partie de la matière. Il n'est plus une partie de lui-même, même. En on milvado. La seule chose qui l'intéresse, c'est le Ratzon Hashem. Donc, ma vie, ma mort, que je sois là ou en haut, que je sois pas, que je sois ou que je sois pas là, je suis là que pour servir Dieu. Donc, de toute façon, comme Zul et Torah. Et aucun problème. Tout est très bien. Vivre, mourir n'est plus important parce que la seule chose qui est importante, c'est Ratzon Hashem. Là, on arrive dans une quiétude. On arrive dans un Shem Shamaim. On arrive dans un Lishma. On arrive dans un désintéressement. Où on est tout proche de la prophétie, tout proche de la capacité de faire des miracles. Pourquoi ? Parce que on n'est plus. On n'est que le reflet d'Hachem. Or, le reflet d'Hachem a tous les pouvoirs, kol yechol. On arrive à un niveau de tzadikout qui nous permet de considérer notre existence pas à l'orée de notre ego, de notre, même de notre existence à nous, mais comme annulée dans le bonheur absolu d'être annulé face à la lumière infinie de Dieu. Et là, on atteint la sagesse ultime, et on n'a plus du tout besoin de pleurer. Donc, quand, d'avoir peur de la mort. Donc, quand le Gaon de Vilna prenait cette cité, dit pleurer, et disait pour quelques copecs je peux faire, c'est pas du tout, il parlait pas de lui. Lui, il était arrivé largement à ce niveau. C'est qu'il voulait encore servir Dieu. Il dit, j'ai encore ici la possibilité de revenir à Hachem. On raconte une histoire extraordinaire, et on finira avec ça. Avec le Gaon de Vilna, c'est qu'on lui a proposé. Il n'y avait pas d'étrog. C'était très. Aujourd'hui, bon, Hachem, tout le monde a des beaux étrogs, des méhadrines. À l'époque, l'étrog qu'on vend ici, 30 shekels, c'était introuvable. Tu sais, la plupart des étrogs n'étaient peut-être même pas cachères. C'était en Europe centrale, on ne trouvait pas d'étrog. Et le temps qu'ils arrivent d'Italie ou de Maroc, ils étaient. Les voyages prenaient des mois, c'était une catastrophe. Et donc, quelqu'un est arrivé avec un très bel étrog, les méhadrines. Waouh ! Le Gaon de Vilna, bien sûr, a voulu faire la mitzvah avec. Et le gars, qui était un petit malin, qui avait l'étrog, il dit, moi, je veux bien donner mon étrog à... Oh, mais je veux son Olam Haba. Je veux le Olam Haba du Gaon de Vilna. Je veux son monde futur. Le Gaon de Vilna n'a pas hésité une seconde. Il dit, prends mon Olam Haba, non, mon étrog. Incroyable. Moi, je comprends même pas encore ça aujourd'hui. Comment quelqu'un qui a travaillé pendant 60 ans, jour et nuit, étudie, pleurait à Yom Kippour pour 18 minutes de Bitul Torah, dans toute l'année. Quelqu'un qui s'est investi corps et âme dans l'étude de la Torah et qui a un Olam Haba fantastique, il est prêt à le donner. Pourquoi ? Pour un étrog ? Oui, parce qu'il ne veut que servir à Dieu. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Son Olam Haba, c'est une petite affaire personnelle, j'en veux pas, que pour Hachem. Bien sûr qu'il en veut, mais il ne va jamais troquer son Olam Haba au prix de trahir le fait de servir Dieu. Vous rendez compte comme c'est beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Je suis prêt à perdre tout. Donne-moi. Je ne veux pas à hésiter un seul instant de dire, ah non, mon Olam Haba, il est plus important que servir Dieu, Dieu préserve. Donc, quand le Gaon de Vilna pleure parce qu'il va mourir et qu'il peut pas acheter de tzitzit, c'est pas pour lui. C'est parce qu'il veut servir Dieu. Alors, on s'en sort pas. Parce que même quand on arrive à la... C'est ça qui différencie le juif, d'ailleurs, des autres nations. C'est que le juif, quand il arrive à la sagesse, à la plénitude de la sagesse absolue, et qu'il n'a plus peur de la mort, puisqu'il ne voit en od milva, il n'y a que Dieu qui l'atteint, il n'a plus peur de la mort. Allez, les autres nations, qu'est-ce qu'elles font? Ah, ils se regorgent de cette sagesse. Ils se regorgent de cette contemplation. C'est de l'idolâtrie. Ils sont contents d'être immortels. Ils sont contents de ne plus avoir peur de la mort. Si vous regardez toutes les religions extrême-orientales, tous les stoïciens, tous, je ne veux même pas dire les noms, de l'extrême-orient, hein, c'est tous une seule obsession, ne plus avoir peur de la mort. Mais ils arrivent à quelque chose de complètement bourgeois. quelque chose qu'ils veulent leur confort. Alors le bourgeois, il veut sa confort en s'achetant des choses confortables, hein, matérielles. Eh ben le spirituel bourgeois, il veut son confort en créant une pratique spirituelle et intellectuelle qui lui désamorce les angoisses parce qu'il a pratiqué la méditation et que il n'est plus ni dans l'espérance ni dans le désespoir puisqu'il n'espère plus rien et que tout se vaut et que voilà, il est devant Dieu. Bon, d'accord. Enfin, même pas Dieu, il est devant l'infini. Tout ça est de la bourgeoisie. En réalité, il ne veut qu'une chose, c'est s'affranchir de la peur de la mort. Mais nous, on s'en fiche de ça. Le peuple juif, il arrive à cette pensée de En Od Milvado qui s'en fiche complètement de sa propre destinée, mais il veut servir Dieu. Et donc revient une tension tout le temps perpétuelle. Je veux servir Dieu, mais la finitude m'empêche de servir Dieu. Et donc encore à nous. Et donc c'est infini. Parce que plus tu arriveras à un degré de sagesse, plus ce degré de sagesse va être ébranlé par l'infini de Dieu que tu essaies de servir. Amen, vini, amen.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.